Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité sur Radio Kapi, suppression de la fonction des greffiers comptables et affichage des actes générateurs par les services d'assiette, recommandation faite par la Cour des comptes après un audit réalisé l'année dernière sur les recettes judiciaires dans les cours, tribunaux, parquets, au ministère de la Justice et à la Police nationale. Kinshasa est calme au lendemain de l'attaque du Palais de la Nation et la résidence de Vital Kamerhe à la Gombe par la bande à Christian Malanga, neutralisée par les FARDC. La circulation est fluide actuellement. Seuls les accès menant vers l'entrée de la cité de l'Union africaine sont tous bloqués. Notre invité, c'est le chef de la section des affaires humanitaires d'Otcha Kinshasa. Ansoumane Kourouma fait le point de la mission qu'il vient d'effectuer à Kisangani où il a rencontré la ministre provinciale des affaires humanitaires et le gouverneur intérimaire de la Tchopo. Madame, Messieurs, bonsoir. La Cour des comptes a publié ce lundi à Kinshasa son rapport d'audit réalisé en 2023 sur les recettes judiciaires dans les cours, tribunaux, parquets, au ministère de la Justice et à la Police nationale. C'est confiant à la presse à ces sujets précisément. Le premier président de la Cour des comptes a recommandé la suppression de la fonction des greffiers comptables et l'affichage public des taux d'actes générateurs au niveau de tous les services d'assiette. Concernant les suites réservées à ce rapport, Jimmy Munganga annonce la poursuite devant la chambre de discipline budgétaire de tous les auteurs des fautes de gestion qui ont été relevées dans cet audit. Le compte-rendu de Jeff Ngoy.
D'un ton ferme, le premier président de la Cour des comptes fait savoir que la faible mobilisation des recettes judiciaires ne pouvait qu'interpeller son institution. Des procès sont annoncés contre les auteurs de fautes de gestion auprès desquels les auditeurs de la Cour relèvent l'ignorance de la loi. Il ressort des 43 entités auditées diverses constatations. D'abord, au niveau des cours et tribunaux.
L'application systématique par le magistrat instructeur du taux minimum de $20 sur un maximum de $1000, quelle que soit la gravité des faits et le rang social de l'inculpé à l'occasion de la fixation des taux des amendes transactionnelles et de cautionnement des mises en liberté provisoire.
Ensuite, au niveau des services d'assiette du ministère de la Justice.
L'enregistrement en comptabilité du montant de $10 américains pour l'obtention de l'extrait du casier judiciaire alors que les requérants payent $30 américains ou plus entre les mains des préposés de cette entité.
Enfin, au niveau de la police nationale.
Le versement par Monsieur Mania Vita Emmanuel, comptable public subordonné au commissariat urbain du district de Lukunga, des recettes réalisées dans un compte bancaire ouvert en son nom à la Tembe.
En attendant des poursuites, Jimmy Munganga adressera des référés aux autorités hiérarchiques des personnes mises en cause afin d'obtenir d'elles des sanctions disciplinaires.
En Ituri, pendant ces temps, la chef des divisions des travaux publics a été interpellée ce week-end, puis remise en liberté provisoire en attendant l'issue de l'enquête. L'auditeur militaire affirme à Radio Kapi qu'elle est citée dans la vente d'un camion de forage d'eau potable destiné à la population du territoire d'Arou. L'inspection provinciale des finances lui reproche également la spoliation du domaine public de l'État, le détournement d'une importante somme d'argent et la vente de plusieurs terrain appartenant à l'État dans la ville de Bounia. Explication de Jean-Claude Lokidile.
Le 6 mai, une équipe de l'auditorat supérieur militaire organise une descente à Arou, où 4 jours plus tôt, la société civile locale fustigée la vente par le service des infrastructures et travaux publics d'un véhicule de forage d'eau destiné à la population de ce territoire, ce qui avait conduit au soulèvement de la population entraînant la paralysie des activités. Le 15 mai, elle est interpellée par les autorités judiciaires à l'auditorat supérieur pour donner des explications à ce sujet, affirme l'auditeur supérieur militaire de l'Ituri. Le colonel Joseph Makelele dit que l'accusé n'a pas respecté la procédure d'usage en matière de déclassement d'un bien appartenant à l'État. Elle est pour l'instant en liberté provisoire, mais son dossier est en cours d'instruction, a-t-il indiqué. Plusieurs autres faits sont mis à sa charge. L'inspecteur provincial des finances cite entre autres la spoliation du domaine public de l'État, le détournement d'une somme estimée à près de $400,000 américains issus de bradage et vente de plusieurs terrains de l'État en ville de Bounia. Contacté, l'avocat de l'accusé promet de se prononcer dans les prochaines heures. Bounia, Jean-Claude Lucky, Dile, Radio Okapi.
Au Maniema, c'était ce week-end la remise officielle de l'école primaire Akeka Unga Ier, construite à Lubutu dans le cadre du programme de développement de 145 territoires par la société Safricas. Le complexe comprend 6 salles de classe, un bureau administratif et des sanitaires. Le président de la société civile locale plaide pour la finition des autres ouvrages qui sont en chantier. Jean-Pierre Moutoro a été joint par Florence Kizalunga.
C'est avec une joie immense que la société civile et forces vives du Maniema entendent de Lubutu. Remercie le chef de l'État et le gouvernement congolais pour la remise aujourd'hui de l'école primaire Aleka Unda Garçon, située dans le quartier Ndeka 0 Avenue, à côté de la paroisse Sainte-Thérèse de la Fange Jésus de Lubutu. Cette structure citoyenne demande au gouvernement congolais de solliciter leurs partenaires afin de terminer les autres chantiers qui restent encore en chantier, tels que les centres de santé Obolimba, les centres de santé Osso, les centres de santé Penyalutwa, l'école primaire Mukwanyama, l'école primaire Twabinga, l'école primaire Bitule, l'école primaire Katinga, l'école primaire Mukamba, l'école primaire Aleka Unda Fille et le bureau administratif du territoire de Lubutu.
Le calme est revenu ce lundi ici à Kinshasa au lendemain de l'attaque du palais de la nation et la résidence de Vital Kamerhe à la Gombe par la bande à Christian Malanga qui a été neutralisée par les FARDC. Les établissements scolaires fonctionnent normalement et les agents des services étatiques et privés sont à leur poste. Et la circulation est fluide actuellement dans la capitale. Devant le palais de la nation, le dispositif sécuritaire reste visible comme d'habitude, mais la route n'est pas barrée. Les piétons et les véhicules circulent normalement dans tous les sens. Cependant, les accès menant vers l'entrée de la cité de l'Union africaine sont actuellement tous bloqués. En réaction, la communauté de développement de l'Afrique australe condamne la tentative de coup d'État survenue hier à Kinshasa. La SADC exprime sa gratitude aux FARDC qui ont réussi à neutraliser la bande de Christian Malanga et mis fin à cette mésaventure. Restons à Kinshasa où l'avenue Nguma longeant la commune de Ngaliema a été rouverte au trafic ce lundi matin. Un ouf de soulagement des nombreux usagers et des habitants de ce coin de la capitale qui étaient contraints depuis plusieurs mois de faire des longs trajets et de débourser beaucoup d'argent pour se déplacer. Un reportage de Murphy Fika.
Après 4 mois de travaux de réhabilitation, l'avenue Nguma est à nouveau ouverte au trafic. Le nid des poules qui causait des embouteillages, surtout aux heures de pointe, laisse désormais la place à une chaussée bétonnée à certains endroits. C'est le cas du tronçon compris entre Kitambo Magasin et l'entrée Montfleury. Conducteur de bus, Dieu Misamou exprime sa satisfaction.
Je suis très ravi de revoir l'avenue Nguma réouvert à la circulation. Nous avions beaucoup souffert, nous étions obligés de passer par Sakombi pour atteindre l'UPN.
Conducteurs de taxis et taxibus ne sont pas les seuls à se réjouir de la réouverture de l'avenue Nguma au trafic. C'est aussi le cas pour les habitants de la partie ouest de la capitale qui avaient du mal à se rendre au centre-ville. C'est ce qu'explique Dombonga.
La circulation est devenue normale. On a beaucoup souffert avec ça. On prenait la moto ici jusqu'à Ipen, on payait 5 000, 8 000. Et surtout le week-end, on payait voire même le 10 000 francs congolais pour arriver à Ipen. Mais pour le moment, quand même, ça va.
Lancé au mois de janvier dernier, les travaux de réhabilitation de l'avenue Nguma ont été exécutés par l'entreprise Aran Sefou.
Dans un autre registre, les élèves de certaines écoles publiques de la ville de Lubumbashi n'ont pas étudié aujourd'hui. Cet arrêt de travail a été décidé vendredi par l'intersyndicale qui réclame du gouvernement central l'application des accords dits de Bibwa en vue d'améliorer les conditions de vie des enseignants. Pour en parler, retrouvons à Lubumbashi Jean Ganduka Bongo.
Ce lundi matin, les élèves sont bel et bien arrivés dans leurs écoles respectives. Certains ont même commencé à étudier avant que les enseignants ne leur demandent de rentrer à la maison. Témoignage de quelques-uns rencontrés non loin de leur établissement scolaire.
Les maîtres ont juste écrit les formules et après il est sorti dehors, ils sont partis au terrain faire la réunion. Et après, les enseignants sont entrés, nous ont dit de rentrer chez nous.
On nous a dit de sortir parce qu'il n'y avait pas cours, on a dit qu'on va rentrer le mercredi.
Dans d'autres écoles, les élèves étaient tous dehors dans la cour et les parents informés passaient récupérer leurs enfants. Cette situation n'est cependant pas générale car certaines écoles ont fonctionné normalement. Ailleurs, un préfet rencontre rencontré nous a indiqué qu'il a demandé aux enseignants de prendre leur mal en patience car l'année scolaire touche vers sa fin. Il faut donc donner la chance aux élèves de bien la terminer en attendant l'installation du nouveau gouvernement car pour l'instant, ceux qui sont en exercice expédient les affaires courantes et ne peuvent donc pas prendre de grandes décisions. Notons que le vendredi dernier, l'intersyndicale des enseignants de l'EPST a au cours de l'Assemblée générale pris la décision d'observer un arrêt de travail de 2 jours à dater de ce lundi au motif que le gouvernement n'aurait pas satisfait à leurs revendications, notamment les accords des Bibois. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Pendant ces temps, en Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental, des dizaines de femmes vivant avec handicap ont reçu ce week-end des machines à coudre, des pagnes et d'autres matériels pour le démarrage d'une activité génératrice de revenus. Ce programme, qui est appuyé par la Rawbank et implémenté par Caritas Congo, vise à les rendre autonomes. En Mbujimayi, la correspondance d'Esther Dalafina.
C'est un ouf de soulagement pour ces femmes vivant avec handicap. Elles sont pour la plupart désœuvrées, mais pour vivre, certaines sont mendiantes. D'autres cherchent chaque jour sans succès des petites activités rémunératrices. Depuis ce week-end, grâce au partenariat Rawbank et Caritas Congo Kinshasa, quelques femmes vivant avec handicap deviennent chefs d'entreprise. Témoignage.
J'ai une grande joie parce que j'avais un handicap. Maintenant, je marche parce que j'ai reçu une machine à coudre qui peut m'aider à devenir autonome. On nous a appris un métier pour qu'on ne continue pas à mendier. Que le Seigneur les bénisse.
La révérende Wivine Mbombo, coordonnatrice nationale de l'Association pour la promotion et la protection sociale des vulnérables, s'est beaucoup investie pour l'encadrement et la formation de ces femmes vivant avec handicap.
À coudre, comme certaines activités. Notre objectif est qu'elles soient responsables, autonomes. Elles produisent elles-mêmes de l'argent.
D'après le représentant de Rawbank, son institution envisage aussi d'autres activités dans le domaine social.
La Rawbank a aussi des projets, notamment le forage d'eau, l'éducation pour aider nos populations.
Signalons que d'autres femmes vivant avec handicap seront formées pour faire l'élevage et la fabrication du savon. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Détour par le Nord Kivu où les assassinats ciblés commis par des hommes armés se sont accrus ces jours-ci dans le territoire de Rutshuru. Le dernier cas, c'est celui d'un enseignant qui a été tué cette nuit à Rutshuru Centre dans la chefferie de Bwisha. Le récit à Goma de Gabriel Ouamenya.
Selon les sources locales, confirmées par la synergie syndicale du territoire de Rutshuru, affirme que Kasere Kasianguma, enseignant des mathématiques à l'Institut Mabungu de Kiwanja, a été tué dans la nuit d'hier dimanche à ce lundi à son domicile à Rutshuru Centre. Ce crime, que son syndicat qualifie d'un homicide prémédité, a été commis par des hommes en armes non encore identifiés qui ont fait irruption dans sa maison aux environs de 19h locales. Les mêmes sources confirment également que l'époux du défunt a été grièvement blessé par balle tirée aveuglément par ce présumé bandit au cours de cette triste opération. La victime est actuellement internée dans une structure médicale de la place. Plusieurs sources recoupées précisent que l'enseignant de mathématiques recevait depuis l'année dernière des menaces proférées par des personnes inconnues. Ces dernières lui demandaient de renoncer à son parti politique, le Birek de Julien Paluku, parti membre de l'Union Sacrée. Rappelons que 4 autres personnes ont déjà été tuées dans des circonstances similaires dans d'autres agglomérations du territoire de Rutshuru sous occupation des rebelles du M23, notamment à Katwiguru, Kiseguru et Kako. Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Kapi.
Dans l'actualité, il y a aussi la poursuite ce lundi au Nord Kivu des affrontements entre les FRDC et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise autour de la localité de Mbati et celle de Nyangé, chefferie de Bachali, au nord du territoire des Massissi. D'autres tirs ont été entendus aujourd'hui près de Rimera, groupement de Bouabo et d'Oufoumando. Sur l'axe Bachali, la reprise des combats a poussé des centaines d'autres ménages à fuir vers Kirumbu et Kalengera. D'autres ont pris la direction de Busumba et Bwiru. La zone autour de Sake est relativement calme.
Actualité internationale.
Au Mali, le président de la Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, actuellement en exil, a salué aujourd'hui la décision prise de débouter le gouvernement de transition d'une demande de dissolution de son parti politique. Oumar Mariko est convaincu qu'il est encore possible que la justice soit faite. Les autorités de transition estiment pour leur part que le chef de ce parti politique a porté atteinte aux institutions du pays. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a déclaré ce lundi après-midi Jacob Zuma inéligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021, condamnation prononcée son exclusion des élections générales prévues le 29 mai prochain. L'ex-président sud-africain ne pourrait pas être élu député national au motif qu'il a été reconnu coupable d'une infraction et condamné en même temps à une peine d'emprisonnement de plus de 12 mois. Des milliers de personnes ont manifesté hier après-midi dans les rues de Bruxelles, en Belgique, pour demander un cessez-le-feu à Gaza et des sanctions contre Israël. C'était la sixième grande marche de soutien à la Palestine organisée par le collectif des activistes de la société civile belge, palestinienne et juive.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef de la section des affaires humanitaires d'Otcha Kinshasa. Onsamane Kuruma vient de séjourner à Kisangani où il a rencontré la ministre des Affaires humanitaires et le gouverneur intérimaire de la Tchopo. Il s'entretient avec Jacques Mukongole.
Asumane Kuruma, bonjour.
Bonjour, cher monsieur.
Vous conduisez une forte délégation des humanitaires en mission à Kisangani et dans la Tchopo. Pouvez-vous nous la présenter brièvement?
C'est une mission interagence, c'est-à-dire composée d'agences des Nations Unies et d'ONG nationales et internationales, et puis intercluster.
Quel est l'objet de cette mission interagence à Kisangani?
L'objet de cette mission, en fait, c'est pour un peu s'imprégner de la situation humanitaire de la province de la Tchopo, qui est considérée comme une province un peu oubliée par les acteurs humanitaires. Comme vous savez, il y a plus de problèmes structurels au moment où différentes agences humanitaires se sont retirées. Maintenant, avec les problématiques de conflits intercommunautaires que vous connaissez, et aussi les inondations qui sont récurrentes, qu'on a jugé bon de venir s'imprégner de la situation, écouter les autorités locales, provinciales, tumières et les acteurs humanitaires qui interviennent dans la province. Donc, en recueillant toutes ces informations, nous aurons une cartographie de ce qui se passe ici réellement, avec des données fiables qu'on aura vérifiées sur place, notamment sur les mouvements de population suite à ces conflits, mais aussi les dégâts causés par ces conflits-là, mais aussi par les inondations dans les zones les plus affectées.
Hier, vous avez eu à rencontrer la ministre provinciale des Affaires humanitaires, Bernadette Fouraha, et aussi le gouverneur de province intérimaire, Cyprien Héry Baraka. Quels sont les problèmes qui ont été soulevés au cours de vos échanges?
Les problèmes soulevés par les autorités, c'est surtout la coordination, le manque de coordination, le fait aussi qu'ils se sentent oubliés et qu'on ne prend pas assez au sérieux les questions humanitaires de la province. Les deux problématiques que je viens de citer, inondations et conflits intercommunautaires, qui ont des conséquences désastreuses sur ces populations de la Tchopo.
Après l'évaluation de la situation humanitaire dans la Tchopo, qu'est-ce que les populations sinistrées peuvent attendre de votre visite?
Nous ne promettons pas de venir demain avec des camions de vivres ou d'articles ménagers non essentiels. Nous allons continuer à mener le plaidoyer auprès des différents acteurs au niveau national, mais aussi au niveau de l'Iturie, pour voir dans quelle mesure on peut assister ces populations sinistrées et vulnérables. Donc c'est le plaidoyer qui va continuer pour mobiliser les ressources au plus haut niveau et vraiment faire entendre la voix de la Tchopo pour essayer de faire face à cette situation. Et nous venons en aide aux autorités. C'est pas une promesse qu'on fait, mais c'est une promesse qu'on va continuer à faire ce plaidoyer, à mobiliser des ressources pour pouvoir répondre à ces deux crises.
Asumane Kuruma, les sinistrés éprouvent d'énormes besoins, vous le savez. Combien de temps pour reprendre votre plaidoyer auprès des instances compétentes?
Honnêtement, je serais malhonnête si je vous dis le délai que ça va prendre. D'abord, nous allons rentrer après ce séjour ici. Nous rentrons le 25 et ça met deux jours déjà pour arriver là-bas. Mais dans les prochaines semaines, déjà nous allons présenter, finaliser ce rapport de mission partagé avec l'intercluster national, mais aussi avec l'équipe humanitaire pays au niveau de Kinshasa. Et l'équipe humanitaire pays est composée des chefs d'agence, d'ONG nationales et internationales, mais aussi de bailleurs. Donc l'idée, c'est vraiment les interpeller, attirer leur attention sur cette situation. On ne sait pas combien de temps on peut espérer avoir une réponse pour la Tchopo.
La Tchopo, presque oubliée par les humanitaires, selon les autorités provinciales, pourquoi Otia n'installe pas un sous-bureau ou un bureau réglé à Kisangani pour essayer de coordonner les activités relatives à la situation humanitaire?
Donc comme vous le savez, il y a longtemps, Otia avait un bureau ici, un sous-bureau ici, qui a été fermé parce qu'on a vu l'amélioration des conditions des populations. Et comme je vous l'ai dit, nous on intervient dans le domaine humanitaire. Tout ce qui est structurel, c'est pas le domaine des acteurs humanitaires. Déjà que nous avons suffisamment de difficultés à mobiliser des ressources pour faire face aux problèmes urgents humanitaires, c'est-à-dire sauver des vies. Donc quand les problèmes structurels interviennent, ce n'est plus de notre ressort. C'est pour ça qu'on s'est retiré. Maintenant, avec malheureusement les deux situations que j'ai citées au début, inondations et conflits intercommunautaires, on est en train de revoir le tout ensemble. On va s'asseoir avec les acteurs ici, les autorités ici, pour voir quelle est la meilleure formule qu'on peut mettre en place. S'il faut ouvrir une antenne, on verra, on va en discuter. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut discuter, il faut évaluer aussi le pour et le contre. Donc on n'est pas fermé, on est ouvert à toutes les propositions et toutes les solutions.
Ansoumane Kourouba, merci.
Merci à vous et bonne journée.
C'était l'invité de Radio Okapi ce soir, le chef de la section des affaires humanitaires d'Otia, Kinshasa, Ansoumane Kourouba, interrogé à Kisangani par Jacques Mukonkole. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté.